Et c'est une semaine que nous allons passer dans un lieu forcément emblématique des monts d'Ambazac. Nous sommes installés ici au musée de la minéralogie et de la pétrographie en compagnie du gérant des lieux, Cédric Noisa. Merci de nous accueillir ici. Et on va faire le tour toute la semaine, évidemment, de ce lieu que peut-être certains ont déjà visité, ont peut-être raté quelques éléments. Vous allez nous révéler quelques-uns des secrets des lieux. Et puis pour certains, ce sera l'occasion peut-être d'un avant-goût avant de venir visiter ce musée installé donc ici à Ambazac, avenue de la Liberté. Précisément, avant de le parcourir tout au long des jours qui viennent, peut-être un mot des origines de ce bâtiment. Pourquoi un tel musée ici en Ambazac ?
Alors, son origine date du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a amassé pendant une trentaine d'années des échantillons du monde entier, puisque se trouvait à raser l'école de prospection du CIPRA et ensuite du CEA et la COGEMA par la suite. Se sont formés sur place les prospecteurs et les géologues de ces grandes entreprises. Ils venaient se former à Razé et cette collection, donc, pendant 30 ans, s'est amassée. Quand le CEA et la COGEMA ont commencé à quitter les lieux après avoir exploité notamment l'uranium et l'or, cette collection était peut-être amenée à disparaître et monsieur Gagnadre, qui est l'ancien maire d'Ambazac, qui était également un ancien ingénieur de la COGEMA, a souhaité rapatrier la collection dans la ville où il était maire pour pouvoir l'exposer et qu'elle ne soit pas dispatchée un peu dans tous les coins. Donc le musée s'est constitué autour de cette collection sur 3 niveaux et depuis nous essayons de l'enrichir la collection par des prêts et des dons de particuliers, également d'associations comme la Société de géologie du Limousin.
Alors on va voir qu'on voyage hein, avec ce musée puisqu'on part du Limousin et on va à l'autre bout du monde finalement avec les roches, les minéraux qu'on va trouver ici.
Absolument, je crois que nous avons les 5 continents représentés ici, puisque chaque minéral ou chaque roche a donc son nom, quelques explications, son origine géographique et parfois la personne qui en a fait don.
Et puis c'est aussi une partie de notre histoire quand on vient ici. Alors pour des enfants, on va dire oui, on va voir des cailloux, mais finalement c'est beaucoup plus que ça, c'est l'histoire de notre planète et au-delà.
Absolument, les cailloux ont d'abord un côté esthétique qui est intéressant, pour le profane.
Que vous mettez d'ailleurs à l'honneur juste à l'entrée où nous nous trouvons.
Voilà, à l'entrée où nous avons mis les plus beaux spécimens du musée. Donc c'est la première chose que les gens voient en arrivant. Mais après, il y a une certaine classification également qui a été faite par famille, au niveau des éléments, par grande famille de minéraux comme les silicates, et un étage consacré à la pétrographie et à la paléontologie où on peut voir toutes les roches du monde entier, puisqu'il y en a plus de 500. Mais effectivement, la part belle est également faite au Limousin, puisque le Limousin a fourni beaucoup de minéraux qui ont été exploités depuis pratiquement la préhistoire.
Soyons un peu nombrilistes tout de même. Et puis on verra tout cela, et ce sera très ludique également. On apprend plein de choses dans le courant de la visite de ce musée. Un mot du bâtiment également, qui a notamment à son entrée un symbole à expliquer peut-être.
Alors la marmite de géant vient de la Gartempe, elle a été retirée sous une ancienne cascade. C'est pour ça qu'on a cet aspect marmite de géant, une partie qui a été creusée par un autre morceau de granit qui était en surplomb dessus et qui l'a gratté au fur et à mesure du temps. Donc effectivement, c'est la première grosse pièce que l'on voit en arrivant. Devant ce bâtiment qui a été conçu dans les années 90, puisque le musée a officiellement ouvert en novembre 97, la première paire s'est posée 2 ans avant, je crois en 95, voilà.
Et quand vous avez posé vos valises ici, pourquoi, comment vous êtes arrivé dans votre cheminement à gérer ce musée aujourd'hui ?
Alors, j'ai fait quelques études dans la géologie qui m'ont permis d'être directement opérationnel quand le musée s'est ouvert. Donc, pour faire les visites commentées, c'est appréciable d'avoir un cursus derrière. Mais après, on l'enrichit également tous les jours avec l'actualité, avec les découvertes, avec l'anecdotique également, puisque le public ne vient pas forcément que pour l'aspect scientifique des choses. Donc, on travaille beaucoup sur l'aspect petite histoire du minéral.
Et toujours aussi fasciné quelques années plus tard.
Toujours autant, j'essaye de faire partager la passion qui est toujours intacte, donc ça fonctionne puisque je crois que le public est assez content quand il repart du musée.
Et c'est notre deuxième rendez-vous ici installé au musée de minéralogie et de pétrographie à Ambazac, toujours en compagnie de Cédric Noisa qui est le gérant du musée. Alors l'ambiance, le son, vous l'entendez peut-être un peu changé, nous avons changé d'univers, on est descendu d'un étage. Alors, on a commencé finalement avec l'accueil qui se trouve au rez-de-chaussée haut, là nous sommes au rez-de-chaussée bas avec l'ensemble pétrographique. Alors rien que déjà le terme demande peut-être explication pour nos auditeurs.
Alors c'est vrai que souvent on nous le demande parce que la minéralogie c'est parlant, on parle de minéraux. Pétros, c'est la roche, donc ici on parlera de science des roches et on verra notamment à cet étage les 4 grandes familles de roches.
Alors déjà, avant d'aller les découvrir, il y a la façon dont elles sont installées qui retient tout de suite l'attention. On a vraiment l'impression que ce sont des roches qui sont là en suspension dans l'air. On a presque l'impression nous-mêmes d'être dans l'espace. Vous nous expliquez un petit peu comment a été installé tout ça?
Alors c'était le but. Le scénographe et l'architecte se sont fait plaisir sur cet espace, puisque la pétrographie, c'est pas quelque chose esthétique, on va dire. Hein. C'est quelque chose. Bon, c'est des cailloux. Donc c'est ce qu'on voit quand on se promène, dans les montagnes ou dans les forêts. Donc ici, la présentation a été mise à l'honneur sous cette forme de demi-colisée, hein, puisque ça ressemble un peu à un théâtre romain. Et surtout, il y a une très bonne acoustique. Alors c'est bien quand on fait les visites commentées. Et là, on peut voir donc les grandes familles de roches. Et effectivement, cet aspect de demi-cercle et également cette galaxie centrale nous font un peu voyager et nous mettent un peu en orbite également au niveau des roches.
Donc là, on en apprend quoi? On en apprend sur la naissance de la Terre, par exemple?
Absolument. C'est ici qu'on va parler depuis l'histoire de l'origine de notre univers, également l'histoire de la Terre, puisqu'on remonte à plusieurs milliards d'années à certains moments. Alors on jongle entre les unités de temps, puisqu'on passe de milliards à millions d'années, des fois à quelques milliers d'années pour les fossiles, puisqu'on a également des fossiles présentés à cet étage. Mais on présente surtout l'histoire de la Terre, puisqu'on a ici les roches magmatiques, donc celles qui nous viennent des profondeurs de notre planète, les roches métamorphiques qui se forment par métamorphose, également les roches sédimentaires qui se forment à la surface, plus les roches météoritiques, puisqu'on a la chance également de pouvoir présenter deux échantillons de roches choires.
Là-bas, par exemple, je vois, ça me ressemble à de l'ardoise. Donc, je suis le néophyte. Ah, ça en est. Bien vu.
Alors, c'est un schiste ardoisier, puisque là, on présente les roches métamorphiques ou cristophiliennes. Ce sont celles qui se forment dans les profondeurs de la Terre, puisque la pression et la température modifient les roches. Donc, par exemple, un granit peut se transformer en gneiss. Et l'ardoise, ce sont souvent d'anciennes pélites, donc de la boue, si vous voulez, simplifiée, qui ont été compactées pour former des roches très dures qu'on utilise donc dans la construction.
Donc ça veut dire que là on retrouve aussi des matériaux qui servent à la construction de tous les jours.
Absolument. Ici d'ailleurs en Bazac, on a beaucoup de maisons qui sont construites en gneiss, donc qui est la roche qu'on a sous nos pieds. La limite entre le gneiss et le granit se trouve derrière l'étang de Jonas. Les villages autour de Vieux, par exemple, sont plutôt construits en granit et c'est ce qui compose ce qu'on appelle les monts d'Ambazac. C'est plutôt du granit. Mais ici, on est sur un sol gnéssique et la carrière d'Ambazac présentait également du gneiss particulier qui sert pour la construction des routes notamment. Avec tous les échantillons qui sont présentés au musée, on peut construire des maisons, puisqu'on a également le grès rouge de Collonges-la-Rouge qui est présent ici, par exemple, et également les phonolithes de Bord-les-Orgues, pour ceux qui connaissent. Voilà.
Et puis il y a du costaud, a priori, ici. Hein.
Là, les roches métamorphiques, généralement, elles ont subi une grosse pression en profondeur, donc c'est souvent des roches très compactes. C'est pour ça qu'on les utilise dans la construction.
Et puis derrière nous, il y a les fossiles également. Vous nous expliquez un petit peu ce qui est sous verre ici?
Alors, la collection du CEA n'était pas très riche en fossiles, puisqu'on recherche pas trop les minerais dans ce genre de roches, mais on a eu la chance d'avoir un don d'un particulier, Monsieur Gangloff, qui était un paléontologue amateur qui a beaucoup gratté dans le bassin parisien, et c'est pour ça que nous avons la chance de présenter trois vitrines consacrées à ces fossiles-là. La partie CEA contient aussi quelques éléments remarquables, comme un œuf de dinosaure fossilisé, des silex également d'Afrique. Et on présente aussi des stromatolites, donc les ancêtres des algues qui ont été les premiers éléments à transformer dioxyde de carbone en oxygène. Donc là, on parle de 3,5 milliards d'années. C'était hier,
bien évidemment. Et puis il y a un côté très ludique, ça veut dire que évidemment les enfants sont les bienvenus au musée. C'est peut-être pas forcément très facile de les amener là. On a plus tendance à les amener au cirque, au zoo. Mais finalement, quand on arrive ici, on peut toucher ces roches. Donc il y a quelque chose de justement très ludique, de très interactif. C'est ce qui peut plaire aux enfants et leur permettre de vivre cette visite de façon très sympa.
Absolument. La géologie est une science tactile, donc il faut toucher. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps avec les écoles dans cette salle là où on peut toucher et aussi retracer l'histoire de la Terre. Par les fossiles, puisque là on parle en millions d'années, mais également par les roches qui ont pour certaines plusieurs milliards d'années.
Et on invitera donc tous les jeunes à vous rejoindre ici. On donnera toutes les infos en fin de semaine, mais d'ici là, on a encore une longue balade devant nous. Et troisième rendez-vous au cœur du musée de minéralogie et de pétrographie ici à Ambazac, toujours guidé par Cédric Noisat qui est le gérant des lieux et qui nous permet de découvrir ce site évidemment emblématique des monts d'Ambazac et que nous vous invitons, si ce n'est pas encore fait, à venir découvrir très bientôt. On a grimpé d'un étage, nous étions dans le précédent rendez-vous hier au rez-de-chaussée bas avec l'ensemble pétrographique. Là nous sommes revenus au niveau de l'accueil finalement, rez-de-chaussée haut avec les collections minéralogiques. C'est vrai que quand on parle musée de la minéralogie, c'est sans doute à ça qu'on pense en premier lieu.
Oui, parce que les minéraux parlent plus que la pétrographie. C'est surtout qu'esthétiquement, un minéral individualisé, sorti de sa gangue, est beaucoup plus joli que les roches qu'on a pu voir à l'étage en dessous.
Mais c'est l'étage des femmes, en fait, ici, c'est ça?
Oui, parce que c'est là où on va également retrouver tout ce qui est pierre précieuse, sous leur forme, enfin sur leur... non géologiques, alors des fois on les reconnaît pas forcément, mais lors de la visite commentée, on peut voir par exemple des émeraudes, des rubis, des saphirs, quelques diamants également, donc voilà, tout le monde y trouve son compte. Donc elles sont présentées dans des vitrines sous le style du musée de minéralogie de Jussieu, et donc on présente les grandes familles, donc principalement ici à cet étage les silicates, pourquoi ? Parce qu'ils sont majoritaires sur la croûte terrestre, donc toutes les formes de silice sont représentées ici. On verra également les minéraux qui se forment par évaporation de l'eau, ce qu'on appelle les évaporites, et puis donc quelques pièces remarquables qui sont présentées dans trois vitrines principales. On va également retrouver tout ce qui est pierres semi-précieuses à cet étage. J'ai parlé des pierres précieuses tout à l'heure, mais on parle également de pierres semi-précieuses avec des zircons, avec des topazes. Voilà, donc c'est vraiment un monde, féerique et qui sert également pour l'industrie et pour la joaillerie.
Alors est-ce que là il y a des minéraux que l'on ne trouve plus, qui sont vraiment des joyaux qu'on ne verra qu'ici ou en tout cas dans des musées de minéralogie?
Alors il y a certains minéraux qui sont endémiques à la région, comme la comprégnacite par exemple, qui doit son nom à Comprégnac. Le système des minéraux, en fait, on peut en redécouvrir un peu partout dans le monde. Quelquefois ils peuvent également changer de nom, je pense à la cyanite qui peut s'appeler également la kyanite par exemple. Voilà, donc le monde des minéraux est quand même un monde encore en mouvement, on en découvre encore, on arrive à les différencier, donc ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps.
Donc encore plein de choses à découvrir, et puis je le disais en début de semaine, c'est un musée aussi très ludique, par exemple si on parle d'échelle de mots, ce sont des éléments qui vont nous apprendre à comprendre également ces minéraux.
Absolument, quand on fait la visite avec les scolaires ou avec les particuliers, on présente sous forme murale quelques panneaux. Alors, on a repris les grands penseurs ou les grands découvreurs de la géologie, mais on présente aussi ce qui permet de reconnaître les minéraux, puisque c'est vrai qu'on a parlé des roches, mais on n'a pas expliqué la différence entre une roche et un minéral. Il faudra venir au musée pour le savoir. Donc les systèmes cristallins, par exemple, sont un moyen de reconnaître les minéraux. Donc ils peuvent prendre l'un des 7 systèmes cristallins qui sont répertoriés. Vous venez de parler de l'échelle de Mohs, donc qui était une échelle de dureté, parce que chaque minéral a une dureté qui lui est propre. En théorie, il n'en a qu'une, mais certains en ont plusieurs.
On parle souvent du diamant, voilà, qui a une dureté très forte.
Le diamant, effectivement, est le minéral le plus dur, il a une dureté de 10. Le minéral le plus tendre, c'est le talc, il a une dureté de 1. Alors, il y a des minéraux entre 1 et 10, si vous voulez. Bon, c'est pas une échelle linéaire, hein, puisque le diamant n'est pas 10 fois plus dur que le talc. Mais c'est une échelle qui permet de classer déjà les minéraux. Et après, en farfouillant un peu dans les ouvrages ou sur Internet, on peut retrouver facilement le minéral auquel il correspond.
Et avec toutes ces infos, ça veut dire aussi que quand les enfants s'en vont du musée, ça va peut-être leur donner envie de s'intéresser un peu plus à ce qu'il y a sous leurs pieds.
Alors, je dirais que souvent, ce sont les enfants qui amènent les parents au musée, qui sont pas très chauds à venir. C'est une période entre 12 et 25 ans, j'allais dire, où la minéralogie intéresse un peu moins. Mais les petits sont très férus de minéraux. Ils ramassent eux-mêmes leurs propres échantillons, qui m'amènent de temps en temps au musée pour faire de la reconnaissance. On revient un petit peu plus tard après la minéralogie, puisque c'est quand même quelque chose qui peut marquer. Parce qu'on l'étudie encore à l'école, heureusement, hein, au niveau du collège. Et puis certains se découvrent une passion et peuvent adhérer à certains clubs locaux, comme la Société de géologie du Limousin, qui contient quelques jeunes pousses qui s'amusent à gratter déjà et qui font déjà de belles découvertes.
On va peut-être finir à l'entrée, puisqu'on l'a dit dans le premier rendez-vous, à l'accueil, il y a la borne d'accueil, quelques spécimens peut-être les plus marquants visuellement. Un mot sur ce que vous avez choisi de mettre en avant ici?
Alors déjà, ce sont des grosses pièces qui rentrent pas forcément dans les vitrines, donc on les a présentées ici à l'entrée, comme ça on peut les surveiller.
Le meuble est costaud, ça va?
Le meuble est très costaud. D'accord. Alors on présente effectivement un corail qui nous vient de Polynésie française, qui nous a été donné par Monsieur Granger il n'y a pas tellement longtemps, ainsi que le bénitier qui est magnifique, il y a un gros bénitier qui pèse très lourd, plus de 20 kilos. Et on présente également toujours en égocentrique, hein, si vous voulez, un granit orbiculaire creusois de Janaïa qui est assez remarquable puisque le gisement n'existe plus. Et j'allais dire que chaque minéralogiste local a un petit échantillon d'orbicule de ce site-là.
Eh ben, prochain rendez-vous à l'étage supérieur pour continuer la visite dès demain, évidemment. Et notre quatrième et avant-dernier rendez-vous déjà dans la découverte de ce musée de minéralogie et de pétrographie à Ambazac, toujours en compagnie de Cédric Noisac, qui est gérant des lieux. On a grimpé d'un niveau par rapport à hier, nous étions dans les collections minéralogiques. Là, nous allons parler de minéraux et de minerais métalliques au premier étage. Alors c'est vrai qu'on parle de pierre et là, d'un seul coup, on nous parle de métal. Quel rapport ?
Alors, on a vu les minéraux silicatés en bas, donc ceux qui contiennent de la silice. Ceux qui sont ici, pour la plupart, contiennent de la silice également, mais ils ont été rangés par éléments. On connaît tous les éléments comme le cuivre, le plomb, le zinc, le fer, l'aluminium. Donc ici, ils sont individualisés dans des vitrines et on présente les minéraux qui sont constitués de ces éléments.
Il y a quand même beaucoup, beaucoup de vitrines, je me rends compte, autour de nous quand même.
Alors, il y a également beaucoup, beaucoup d'éléments dans la nature. Jusqu'à l'uranium, il y en a déjà 92.
Ah, il va falloir pousser les murs. Hein.
Voilà, ouais. Donc, mais on ne les présente pas tous ici individuellement. On a des vitrines qui sont jumelées, on va dire, puisque les minéraux ne se forment généralement pas tout seuls. On ne les sort pas comme ça de leur gang. Ils sont souvent sous forme de paragénèse. Ce sont plusieurs minéraux qui vont se former ensemble. Je pense notamment aux minéraux de plomb et du zinc qu'on retrouve généralement dans les gîtes exploités en même temps.
C'est vrai que c'est des choses toutes bêtes, on n'y pense pas quand on pense au plomb par exemple, on n'imagine pas forcément du tout un caillou, on imagine tous pareil un bout de ferraille. Ça aussi pour les adultes, on a parlé des enfants qui vont découvrir les roches, qui vont pouvoir les toucher au rez-de-chaussée bas, mais là on est vraiment sur des choses qui vont peut-être interpeller même les adultes qui n'ont même pas réfléchi finalement d'où vient le plomb tout simplement.
Absolument, alors c'est vrai que le plomb est souvent présenté sous forme de galène, donc est un minéral assez lourd qu'on reconnaît justement par sa densité, mais on présente également l'aspect ludique. On présente par exemple ici au niveau du plomb un poste à galène, donc l'ancêtre des radios, hein, de radio Open FM par exemple.
Bien vu.
Voilà, qui fonctionne. Alors on peut pas le faire fonctionner au musée malheureusement parce qu'il faudrait une grande antenne, mais le monsieur qui nous l'a offert, monsieur Roland Barquet, nous a confirmé qu'il fonctionnait.
Une question très pratique d'ailleurs, les minéraux, en termes de conservation, il n'y a pas de dégradation dans le temps, il n'y a pas de nécessité à les conserver d'une façon particulière?
Alors malheureusement, vous avez touché un point sensible, les minéraux réagissent au niveau de l'atmosphère, ils ont tendance à s'oxyder pour la plupart. C'est ce qui arrive par exemple à un bisulfure de fer qu'on appelle la marcassite, qui a tendance à dégager de l'acide sulfurique. Mais on le voit, on parlait de l'arsenic, on voit ici par exemple le réalgar et l'orpiment qui également ont tendance à devenir sous forme purulente, hein, sous forme de poudre dans leur présentation. Donc ce sont des minéraux qu'on va pouvoir par la suite échanger parce qu'on a des réserves au niveau du musée et quand on a la possibilité on peut échanger certains minéraux qui étaient en vitrine par d'autres.
Puis on est en Limousin, alors c'est vrai qu'on parle de choses qui viennent de l'autre bout de la planète, on vient de le dire, mais il y a les uranifères forcément quand on parle du Limousin.
Effectivement, on présente dans une salle à part les minéraux uranifères, donc tout ce qui irradie, entre guillemets. Bon, il faut savoir qu'on a l'autorisation de présenter ces échantillons-là, mais c'est aussi surtout un devoir de présentation, parce que ça fait partie de la richesse locale, et ça fait partie du patrimoine, donc on se doit en tant que musée de présenter ces échantillons-là, mais on précise au public qu'effectivement il y a des radiations bon, qui risquent pas grand chose pendant les 25 minutes qui vont passer dans cette salle, mais on leur présente également le principe que nous-mêmes, personnel qui travaillons ici, avons des contrôles réguliers, que si nous on peut présenter ces échantillons là, il n'y a pas grand chose à craindre pour leur part.
Donc là, on vient de faire l'entrée, du coup, j'en profite pour le dire, dans cette salle consacrée aux minéraux uranifères. Déjà, visuellement, alors c'est vrai qu'on a pu faire peur, hein, en disant « Oh là là, attention, vous risquez rien », mais certains vont se dire « Ouais, mais moi, je serais gentil, je passerai à côté ». Franchement, ça vaut le détour parce que visuellement, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
Alors, c'est vrai que le minerai principal d'uranium, c'est la pêche blinde, pardon. Donc, c'est un minéral noir qui a cette couleur pois, assez poisseuse d'ailleurs, hein. Mais on a également des minéraux endémiques au secteur limousin. Je pense notamment à la comprignacite qu'on présente ici, qui a été trouvée à quelques échantillons. Et des superbes échantillons de la collection de Jean Ventenat, qui était un ancien prospecteur et avec des échantillons d'autunite, notamment, remarquables.
Jean Ventenat, auquel un espace est entièrement dédié.
Effectivement, Jean était un ancien prospecteur, pardon, de la Kojima. Il a eu toute sa vie des minéraux entre les mains. Donc, il était souvent le premier au niveau des mines à rentrer dedans et à trouver donc ces échantillons-là. Et au cours de sa vie, il a également amassé sous forme d'achat, très rarement sous forme d'échange, souvent des échantillons du monde entier. Et c'est vrai que cette collection était tellement riche qu'il aurait été dommage de la voir disparaître ou disloquer. Donc ici, le musée, comme Jean était natif dans Bazac, d'un village à proximité, il a souhaité léguer sa collection à la ville d'Ambazac. Et la ville en a pris grand soin de cette collection puisqu'on a créé un espace qui lui est consacré aux 1600 échantillons minéralogiques dont une grande partie des monts d'Ambazac sont présentés. Puis Jean a eu une autre passion, c'était de gratter dans les rivières, ce qu'on appelle faire de la prospection de rivières ou de l'orpaillage. Bon, l'orpaillage fait souvent penser à l'or, mais il a également trouvé plein d'autres minéraux et on a la chance de pouvoir présenter toute sa vie sous forme de minéraux alluvionnaires ici au sein du musée.
Un travail absolument incroyable hein, quand on voit toutes les fioles, tous les grains, quand on se dit qu'il les a peut-être traités un par un, c'est un boulot titanesque.
Absolument, donc c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir le présenter et les lunettes sont là pour voir un peu plus gros, hein, ce sont des loupes, donc on voit tous ces échantillons et je trouve que c'est un travail remarquable et qui aurait été dommage également de voir disparaître.
Et c'est notre dernier rendez-vous déjà au cœur du musée de la minéralogie de pétrographie ici en Bazac, toujours avec Cédric Noisa, gérant du musée. On va terminer alors assez paradoxalement en n'évoquant pas les roches, les minéraux, parce que au cœur de ce musée, il y a également un espace particulier qu'il faut découvrir, même s'il n'a absolument rien à voir avec ce que l'on a évoqué depuis le début de la semaine. C'est le fameux espace Isis, du nom d'un grand photographe post-guerre, vous nous expliquez un petit peu.
Alors Isis était effectivement un photographe qui a été surtout reconnu ici en Limousin par les photos des maquisards suite à la fin de la Seconde Guerre mondiale, même s'il était déjà connu un petit peu avant. Alors c'est un monsieur qui est né en Lituanie, voilà, qui a été persécuté comme sa famille, qui a trouvé refuge en France. En fait, il se retrouve ici en Bazac dans les années malheureusement de guerre. Il a eu la chance d'être protégé par les Ambazacois. Et donc en retour des choses, quelques dizaines d'années après, son fils Manuel Bidermanas, qui a été également protégé ici, a souhaité léguer à la ville d'Ambazac des reproductions de photos pour mettre en valeur le travail de son père. Et donc la mairie d'Ambazac a pris le parti d'utiliser la dernière salle qui était au musée, qui servait de salle d'exposition, pour présenter le maximum de photographies de l'artiste. On présente également son laboratoire tel qu'il était dans son appartement parisien à la fin de sa vie. On présente cette année plusieurs thématiques, toujours les maquisards qui nous sont souvent très demandés puisque les gens connaissent Isis par les maquisards, mais on présente d'autres thématiques comme Paris, dans les années 50, également Londres avec le couronnement de la reine, et une partie consacrée au cirque et foire du trône, puisqu'il a eu le bon goût de prendre des photos de ces endroits-là. Et ce sont toujours des photos remarquables, puisque Isis était un photographe humaniste qui aimait l'humain et qui le prenait très bien en photo. Il y a toujours quelque chose qui ressort de ces photos.
Voilà, un bel espace donc que nous découvrirons plus en détail très bientôt sur Radio Open FM et puis que vous découvrirez vous en vous rendant ici au musée de la minéralogie et de la pétrographie à Ambazac. Alors on va justement terminer peut-être, Cédric Noisa, on va peut-être redescendre tranquillement, on va se rapprocher de la sortie, comme ça ce sera fait avec quelques infos pratiques. D'abord rappeler que le musée se trouve au 5 avenue de la Libération ici à Ambazac. Si on veut venir vous rendre visite, c'est possible tous les jours sauf le lundi, si je dis pas de bêtises.
Alors en fait, on a deux périodes d'ouverture, une période de septembre à juin où nous sommes ouverts du mardi au samedi, tous les après-midi de 14h à 17h, ce rendez-vous pour les associations ou les groupes scolaires ou autres, et de juillet et août, on est ouvert du mardi au dimanche, donc le mardi au vendredi, le matin de 10h à midi et de 14h à 18h, le samedi et le dimanche de 15h à 18h.
Et puis en dehors évidemment de la balade que l'on peut faire ici, vous proposez pas mal de petites choses. Là par exemple, on est revenu au niveau du premier étage avec des animations par exemple pour les plus jeunes.
Alors plusieurs animations, on a développé un petit atelier pause pour les parents où on peut déposer les enfants, où ils peuvent faire des dessins, des rébus, également visionner certaines vidéos scientifiques autour de la géologie. Mais on présente également, dès l'accueil, la possibilité de prendre ce qu'on appelle des QCM, questionnaires à choix multiples, où on peut faire la visite du musée de façon ludique et pédagogique.
Et c'est là où on se rend compte qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre normalement quand on remplit le questionnaire.
Voilà, c'est le but. On a fait un questionnaire, différents questionnaires. Il y en a 5 qui permettent également de tester son niveau en géologie.
Les visites guidées, évidemment, qui sont organisées. Là, vous nous avez fait la visite, succincte, hein, faut être clair, parce que ça prend beaucoup de temps. Combien de temps pour une visite guidée de l'intégralité des lieux?
Alors, une visite guidée varie entre 1h30 à 2h, en sachant qu'on dispose également d'une boutique dans laquelle les gens peuvent partir avec un petit souvenir pour eux ou pour faire sous forme de cadeau.
Puis, c'est vrai qu'on a parlé depuis le début de la semaine d'étages, rez-de-chaussée, premier étage, etc. On précise que tout le monde peut accéder au musée puisque vous avez tout prévu.
Absolument, nous disposons d'un ascenseur qui dessert les 4 étages, ainsi qu'un escalier avec rampe. Donc je pense que tout public peut venir voir les minéraux.
Et le mot de la fin, pour inciter ceux qui, peut-être habitants d'Ambazac, n'ont pas encore sauté le pas de la visite du musée de la minéralogie et de la pétrographie, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les convaincre de venir vous rejoindre dans les jours qui viennent?
Alors, les convaincre, c'est l'aspect peut-être monétaire qui peut les convaincre, en sachant que l'entrée est à 5 euros. Et comme nous sommes partenaires de Visiter Malin, que c'est un petit ouvrage qu'on peut trouver dans tous les offices de tourisme, dans les gîtes, dans les chambres d'hôtes également, on permet d'avoir 1 euro de réduction par personne. Donc 4 euros pour visiter 4 étages et 2 euros pour les enfants entre 6 et 15 ans. Je trouve que c'est relativement peu pour 1h30 à 2h de visite.
Et pour en apprendre beaucoup plus sur finalement l'histoire de notre planète et notre histoire à tous.
Absolument, parce qu'on a vu l'histoire de la Terre, mais on a vu que le Limousin en lui-même était déjà riche d'éléments et de petites histoires également que vous pouvez venir découvrir au sein de notre structure.